I wish I was sober before you came over. But you know that this is making me nervous. I'm drunk in a cafe, you're drinking a latte. And I haven't slept a wink waiting for this date. Ooh, do you feel it too? You give me a cookie, there's crumbs all up on me. You're staring at me like I'm under the spotlight. The sweat is dripping down to my toes. Enjoy the view on this date with you. This coffee shop, if you just hold my hand, we'll spin round the tables till we both fall down. And I just wanna dance under the lights of this coffee shop. If you just hold my hand, we'll spin round the tables till we both fall down and stop. Oh, I wish this night would never end. Oh, oh.
On vient d'entendre la chanteuse canadienne Barbara Licka et la pièce Coffee Shop.
Alors, la portion culturelle, vous le savez, on vous l'a dit dans les éphémérides en compagnie de Jean-Sébastien, c'est aujourd'hui la journée mondiale du théâtre. Béatrice Picard, porte-parole, Béatrice Picard qu'on connaît bien à Canal M de Vusez-Voix et surtout à Vusez-Voix. En 2018, j'aimerais affirmer que le théâtre est le microcosme de l'univers entier, visible et invisible, tangible et intangible. Il est un dispensateur de joie, d'émotion et de réflexion. En constante évolution, cet art vivant qui regroupe tous les autres arts donne vie à la vie, que ce soit côté scène ou côté salle, déclare la vénérable Béatrice Picard en cette journée mondiale du théâtre. Avant la lecture de ce message ce soir à la Maison du Conseil des arts de Montréal, une conférence débat y aura lieu sur la sous-représentation féminine dans le théâtre québécois. Organisée par le Conseil québécois du théâtre Marcel Le Dubois, Sylvain Bélanger, Sarah Bertillon, Marie-Louise Bibiche-Mumbo et Ginette Noiseux en discuteront dès 13h30. À Ottawa aussi, on célèbre la Journée mondiale du théâtre. « Tapage et autres bruits sourds » est une production du Théâtre français du Centre national des arts, le CNA, qui promet d'être un happening décapant, tout feu, tout flamme, fait de paroles et de chuchotements. Un collectif de 18 auteurs et autrices, les Poids-Plumes, se cachent derrière ce spectacle. Il avait présenté auparavant « Comment frencher un fonctionnaire sans le fatiguer » au studio Azrieli du CNA, donc ce soir et demain. Madame Catherine prépare sa classe de troisième à l'irrémédiable, les fusillades dans les écoles. Ce thème délicat, s'il en est un, a été traité avec courage par une jeune dramaturge d'Edmonton, Elena Belliya. Sa comédie noire, traduite par Olivier Sylvestre, est un solo qui met en vedette la talentueuse Alice Pasquale, qu'on a vue dans J'accuse au théâtre et Trop à la télé. La mise en scène est signée par John Lachlan Stewart et c'est à la salle intime du Prospero du 27 mars, donc à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 14 avril. On continue de parler théâtre, c'est la chronique de Guy Fournier intitulée « Shakespeare is well and alive à Montréal ». Le très, très vieux William Shakespeare, 454 ans bien sonné, n'a jamais été aussi jeune qu'au Théâtre Denis Pelletier où il séjourne jusqu'au 18 avril. N'allez surtout pas croire que le vieux est retombé en enfance et qu'il radote. Vitaminé jusqu'au bout des ongles par le théâtre Advienne que pourra de la Naudière, il pète le feu et enchante tous ceux qui viennent le voir. La plupart du temps, on se contente de mettre en scène un Shakespeare vaguement rajeuni au Botox. Le metteur en scène, Frédéric Bélanger, et l'auteur Steve Gagnon, eux, lui ont donné un authentique lifting. Les spectateurs sont donc transportés par un songe d'une nuit d'été qui ne ressemble à aucun autre qu'ils pourraient avoir déjà vu. Dans ce spectacle que transcende l'éblouissante Maud Guérin, aussi sensuelle et réelle que Marilyn Monroe dans son rôle de Titania, pas un seul interprète ne détonne. Des comédiennes comme Karine Gontier-Heinemann, qu'on a vue dans Nouvelle Adresse et qu'on voit dans Like Moi, etc., et Olivia Palacci, qu'on voit dans Mensonges et aussi Hubert et Fanny, livrent des performances qui tiennent du plus pur comique. Dany Boudreau, qu'on voit dans Destinée, incarne un POC transgenre ou queer ou androgyne, à vous de choisir, qui promène son personnage et son sac à malice avec autant d'aisance sur scène qu'au milieu de l'assistance. Nous faisons d'ailleurs partie du songe car nous sommes littéralement intégrés à la pièce d'habile manière par Olivia Palacci et les deux ouvreurs Jean-Philippe Perra et Adrien Bletton. Dans cette fable, deux couples d'amoureux transis se retrouvent mêlés à une querelle entre Oberon, Étienne Pilon, le roi des elfes, et Titania, la reine des fées, pendant que des comédiens amateurs préparent une pièce pour un mariage princier. Tous s'entrecroisent dans un lieu qui n'a rien à voir avec la mystérieuse forêt imaginée par Shakespeare et la plupart des metteurs en scène qui l'ont suivi. Frédéric Bélanger a choisi de faire évoluer ses personnages dans ce qui pourrait être un quartier de boîte de nuit, un lieu que surplombent d'imposantes lettres lumineuses accrochées sur trois niveaux différents qui composent le mot « dream ». Lorsque j'assiste à un spectacle aussi réussi que celui-là, je ne peux que m'extasier sur le talent phénoménal des jeunes artistes du Québec. Je ne peux que déplorer aussi que Radio-Canada n'arrive pas à mettre tout ce talent à profit pour présenter des émissions qui le distingueraient de la télévision privée et pourraient lui permettre de rivaliser avec des télévisions publiques aussi prestigieuses que la BBC ou PBS. Alors donc, avoir cette relecture, cette réécriture même, puisque j'ai assisté à la première de cette pièce que j'ai trouvée vraiment pétillante, une belle sortie printanière, c'était au Théâtre Denis Pelletier. Il y avait plein de jeunes dans la salle qui étaient tout à fait réjouis. c'est à Bangkok, en Thaïlande, que le cinéaste Daniel Roby, qui a réalisé entre autres Louis Cyr, a amorcé le tournage de son premier film anglophone, Gut Instinct, un thriller qui mettra en vedette Antoine-Olivier Pilon et l'acteur américain Josh Hartnett. À compter de la semaine prochaine, l'équipe de production se déplacera à Vancouver pour quelques jours avant de s'installer à Montréal où 5 semaines de tournage sont prévues en mai et en juin. Produit par André Rouleau, producteur de Starbucks, Gut Instinct s'inspire de l'histoire vraie d'un ex-toxicomane québécois qui, dans les années 80, avait été incarcéré dans une prison thaïlandaise après avoir été impliqué malgré lui dans une transaction de drogue. Son histoire avait attiré l'attention du journaliste Victor Malarakek, du Globe and Mail, qui avait enquêté sur cette erreur judiciaire. Daniel Roby travaille sur ce film depuis déjà 10 ans. J'ai dit Victor Malarakek, mais il s'agit bien de Victor Malarakek. Malarek, pardonnez-moi. Le département de danse de l'UQAM tient ce mardi un hommage à sa fondatrice, la chorégraphe et chercheuse Martine Époque, décédée le 18 janvier. Des témoignages, des projections et des prestations artistiques seront donnés afin de souligner la contribution de Madame Époque à la danse contemporaine d'ici comme à son enseignement. Au pavillon de danse de l'UQAM, c'est au 840 rue Chérier à compter de 17 h. Place limitée, réservation à lantin.chantal@ucam.ca. En tournée en France, ces jours-ci, l'auteur-compositrice-interprète Samuel a reçu dimanche l'un des coups de cœur chansons 2018 du festival Voix de fête de Genève. Son album tonique, sincère et engagé, Les filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent, a en effet été retenu par le groupe Chansons de l'Académie Charles Cros, qui a préparé cette sélection de 15 albums à marquer d'une pierre blanche. À ses côtés, on trouve « Monstre d'amour » de Clara Luciani, « Épris dans la glace » de Dimonet, mais aussi « L'imprévu » de Mathias Bressan et « Hologramme » de Fanny de Poule. Ce palmarès est dédié à Barbara Weldens, artiste de talent récompensée d'un grand prix en 2016, tragiquement disparue sur scène le 19 juillet 2017. On va écouter Samuel? Allons-y.
toi. Crie le roi, la cour te pointe du doigt. Mais le fou se moque du roi. On est fou avec toi. La révolte brille maison chez les fous et les sans nom qui tous unis devant le roi se tiennent nombreux et le dos droit. Le temps se comptera en jour jusqu'à ce que le roi et sa cour tombent sous le poids de la barre. Toi, les fous te pointent du doigt.
Tel qu'annoncé précédemment par Hélène, c'était donc Samuel et la pièce La Révolte. Un clip, on vous rappelle, qui est disponible en LSQ.
Avec le segment libre, j'enchaîne avec un sondage. La confiance envers les journalistes en hausse au Québec. La confiance des Québécois envers les journalistes s'est accrue depuis un an, démontre le troisième baromètre de confiance au Québec de la firme des relations publiques Edelman. Les répondants ont aussi le désir que les entreprises s'impliquent davantage socialement. C'est dans la presse d'aujourd'hui sous la plume d'Isabelle Massé. Au Québec, la confiance a augmenté envers les médias, plus 5 % et le gouvernement, plus 6 % depuis un an, mais elle a baissé envers les ONG et est restée stable envers les entreprises. La situation est différente aux États-Unis en ce qui concerne l'impact des fake news. La circulation d'informations de tout type sur les réseaux sociaux et le martèlement par Donald Trump des mots « fake news » depuis un an ont toutefois eu raison de la confiance des gens envers les institutions aux États-Unis. On note ainsi une diminution de 14 % de la confiance envers le gouvernement et de 5 % pour les médias. Qui croit-on le plus? Les journalistes et le gouvernement sont parmi ceux qui ont vu leur crédibilité le plus grimper depuis un an. On note toutefois un scepticisme envers les médias, remarque Ève Laurier, directrice générale d'Edelman, Montréal. Pour les Québécois, la crédibilité de l'information passe par les journalistes avant les médias. Les médias, c'est avant tout les journalistes. D'ailleurs, c'est une différence qu'on note avec le Canada. Le star system est plus fort ici. On voit les journalistes, ce sont des personnalités publiques. Experts universitaires, 63 % augmentation de 5 % experts techniques, 61 % augmentation de 7 % analystes financiers, 51 % plus 8 % représentants d'ONG, 45 % plus 13 % d'augmentation. Journalistes, 44 % plus 18 % entrepreneurs prospères, 42 % moins 2 % PDG, 38 % plus 8 représentants du gouvernement, 36 % plus 12 désintérêt envers l'actualité. Les Québécois se désintéressent toutefois de l'actualité. Les deux tiers consultent les nouvelles moins d'une fois par semaine. Mondialement, 40 % des répondants se disent moins informés et écoutent moins les nouvelles. Il n'y a pas assez de nouvelles positives à leurs yeux, dit Ève Laurier. C'est troublant. En 61% des Québécois sondés s'inquiètent des fake news. Regard positif sur l'énergie. La confiance envers les entreprises se maintient, mais on note une augmentation de la confiance notable envers les entreprises des secteurs de l'énergie et des services financiers en 3 ans. Peut-être car on parle de plus en plus d'énergie verte, avance Ève Laurier. Et peut-être grâce à des Sophie Brochu, présidente et chef de la direction d'Énergir, qui démocratise l'énergie. Parallèlement, mondialement, on considère que les entreprises ne sont pas responsables des problèmes, mais qu'elles sont celles qui peuvent le mieux régler les enjeux de société, dit Ève Laurier, directrice générale d'Edelman Montréal. Retour aux missions originelles. Qu'est-ce qui favorise la confiance? Chez les médias, c'est lorsqu'ils protègent la qualité de l'information et dénoncent les abus de pouvoir selon les répondants. Chez les entreprises, c'est lorsqu'elles protègent la vie privée et qu'elles soutiennent la formation de la main-d'œuvre. Pour le gouvernement, c'est lorsqu'il stimule la prospérité économique, il bâtit des infrastructures et procure des services sociaux. Les Québécois souhaitent un retour aux missions originelles des institutions, note Ève Laurier. Le sondage a été réalisé du 18 octobre au 20 novembre 2017 auprès de 33 000 personnes du monde entier, dont 1 000 au Québec, mais comme il est considéré comme un miroir des tendances de l'année à venir par Edelman, les tableaux sont déclinés sur les années 2017 et 2018. Défi santé 2018, 90 fois merci, c'est Sylvia Galipeau dans la presse. Après le mois sans alcool, voici le mois en santé. Du 1er au 30 avril, les Québécois sont invités à relever le défi santé. Nouveauté cette année, en plus des défis alimentaires et physiques, on a ajouté un volet gratitude au projet. De quoi s'agit-il? Pour ce 14e défi santé, en plus de cibler un mode de vie sain comprenant 5 portions de fruits et légumes par jour, et 30 minutes d'activité physique quotidienne, on invite les participants à dire merci. 3 fois plutôt qu'une, et ce tous les jours. Merci à quoi? Au soleil, au voisin de bureau, à la copine ou à l'enfant souriant. Merci par écrit dans un journal de gratitude, de vive voix ou carrément dans une lettre. Pourquoi? Parce que la gratitude, c'est prouvé, c'est bon pour la santé, tant physique que physiologique. Il y a des impacts à bien des points de vue pour la santé psychologique, le bien-être, quand on prend le temps d'apprécier les belles choses de sa vie, dit Jean-François Villeneuve, psychologue et porte-parole. Quand on prend le temps d'apprécier son café, la nature, le petit service rendu par le coloc ou la tape sur l'épaule du voisin, ça a un impact sur l'humeur et ça réduit le stress. Des recherches démontrent même qu'il y a un impact sur le système immunitaire, affirme Jean-François Villeneuve. Et ce serait même un facteur de protection contre la dépression. Un exemple de cet exercice tiré de la psychologie positive, si j'apprécie ma copine ou une autre relation, juste le fait de prendre le temps de le dire, ça détend. Je me sens mieux, fait-il valoir, en soulignant ici l'importance d'apprécier en toute conscience, dans sa tête, pourquoi pas en fermant les yeux, pour bien sentir et vivre cette reconnaissance. Parce que c'est là qu'il y a un impact sur le plan du bien-être. Ça détend. Et ça nous fait décrocher. Idem avec le travail, la santé ou pourquoi pas la vie de famille. Si en prime on le dit à la personne concernée, verbalement ou par écrit, ça fait du bien et ça entretient les bonnes relations. Même si certains aspects de votre vie vont moins bien, le travail, votre mal de dos, encore là, il y a toujours moyen de se concentrer sur le positif. Si vous n'aviez pas ce travail, vous perdriez vos collègues, souligne le psychologue. Ultimement, on espère évidemment acquérir ici certains réflexes. C'est tout simple, mais quelque chose peut s'installer. L'idée, c'est de nous faire voir les choses différemment. Depuis le lancement en 2005, 1,4 million de personnes ont participé au défi santé. Alors, 9 raisons de dire merci, le fou rire entre collègues, une promenade en nature, un câlin de son enfant, un message de son amoureux, un service rendu, l'eau du robinet, une chanson, une conversation, l'accueil du chien. 5 villes où s'échapper durant un long week-end. Il n'y a pas que le temps doux qui s'en vient, il y a aussi le long week-end de Pâques et le long week-end de la Journée des Patriotes. Des occasions idéales pour se payer un petit voyage, surtout si on n'a pas eu la chance de sortir du banc de neige de l'hiver. Voici 5 incontournables pas trop loin de Montréal, alors je vous en lirai 2 ou 3. Ottawa, 2 heures de route de Montréal, ne sous-estimez pas la capitale nationale, il vous restera bien des choses à faire après la colline du Parlement et le canal Rideau. Par exemple, visiter des musées, flâner dans un café, savourer quelques beignes, essayer un bon resto et aller prendre un verre au fameux marché Bail. À la recherche d'un beau décor pour vos photos Instagram, attendez le long week-end de mai pour y aller. Ce sera le Festival des Tulipes du 11 au 21 mai 2018. Autre suggestion sortie, Philadelphie, 7h30 de route. C'est un peu loin, mais si vous n'avez que 3 jours, mais Philly est généralement une agréable surprise. Et ce, pour plusieurs raisons. C'est le lieu de naissance des États-Unis et on peut visiter des sites historiques comme l'Independence Hall. C'est la ville de Rocky Balboa et on peut faire un selfie avec sa statue. Il y a aussi plusieurs musées, des dizaines de murales, un marché couvert qui vaut le détour et un nombre particulièrement surprenant de beer gardens où aller flâner après une journée de découverte. Autre suggestion de destination, New York, 6h30 de route, Toronto, 6h de route et Boston, 5h de route. Merci d'avoir été à l'écoute de l'émission Le quotidien du quotidien de ce mardi 27 mars 2018. Hélène Denis qui vous invite à rester là si vous nous écoutez en direct. Les paractualités s'en viennent. Un grand merci à Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et au choix musical. À très bientôt, Jean-Sébastien.